Parole d'auteur. Parole d'auteur, Philippe Gilbert.
Qu'y a-t-il de commun entre les habitants des villages engloutis par les eaux des barrages de la Dordogne et un musicien des mots pieds noirs? Des lieux dits, des noms dits, des mots enfouis. Tous, en tout cas, ont compris que la mémoire n'est pas le souvenir, mais qu'une autre mémoire existe, celle des faits que l'on n'a pas connus, mémoire qui souvent est un héritage encombrant. Alors que faire? Tout simplement se laisser porter par la brise verbale de l'oralittérature et cheminer vers la page blanche pour se réécrire. Oui, j'ai bien dit oralittérature. Vous avez envie d'en savoir plus? Alors restez avec nous. Paul Monnier nous dit tout dans son roman graphique et musical « Les mots enfouis » paru aux éditions Cap de l'Étang en 2023 et réédité en 2024. Bonjour Paul Monnier.
Bonjour Philippe.
Ravi de vous recevoir à Parole d'auteur. Je rappelle pour nos auditeurs que ce livre a été et l'œuvre d'une équipe, d'une petite équipe, hein, finalement, puisque ont participé à ce livre Jean-Pierre Madère pour les musiques et Pascal de Ressegué pour les illustrations.
Absolument, c'est voilà. Un travail à trois et j'en suis l'auteur.
Très bien. Je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez réagir à cette émission sur notre site et la retrouver sur tous les bons podcasts et sur toutes les grandes plateformes numériques. Alors, Paul Monnier, première question, vos mots sont-ils encore enfouis aujourd'hui ou bien définitivement déblayés?
Excellente question. Je pense qu'ils ont été largement libérés par ce travail qui a été un long cheminement. Déjà en écriture, le livre, je crois que j'en étais à la 18e version. Mais ça a commencé petit à petit par un travail long de récolte, de découverte en écoutant d'autres personnes. En fait, je me présente comme un metteur en son. Et mon premier métier, finalement, c'est d'écouter. Et à force d'écouter des voix qui racontaient leur propre histoire, j'ai découvert qu'il y avait des points communs entre des exils, entre des justement ce que vous disiez en intro, du trop dit et du non dit. Et petit à petit, ça a réveillé ma propre histoire personnelle que j'ai libérée de cette manière. Donc ça a été un vrai exercice long, mais salvateur. Par contre, je pense aussi que tous ces mots enfouis, plus j'avance, plus j'en découvre d'autres. Donc c'est à suivre.
Alors nous allons revenir en détail sur ces mots enfouis, sur le concept même et sur tout ce que ça sous-entend par rapport aux souvenirs et à la mémoire. Auparavant, je voudrais que nous donnions une petite idée à nos auditeurs de vos activités diverses. Alors, en me renseignant sur vos professions, j'ai trouvé des qualificatifs surprenants ou, pour le moins, peu communs, originaux. On vous qualifie de musicien des mots, de metteur en son, d'ingénieux du son, de bidouilleur de matière sonore. Alors, qu'est-ce que vous faites exactement?
C'est très difficile de résumer. D'ailleurs, je rentre jamais dans les cases de la DRAC, pour info. Aujourd'hui, je dis que je suis metteur en son, c'est-à-dire je travaille vraiment la musicalité, mais aussi la prosodie, tout ce qui est phonétique. Je travaille à la fois les mots et la musique. Et je pars aussi du principe que n'importe quel bruit est un instrument qui s'ignore. Donc, je travaille vraiment sur la matière sonore avec beaucoup de passion, voire, comme disent les comédiens avec qui je travaille, parfois de l'obsession. Donc, c'est un travail très méticuleux où je cherche la poésie à la fois de la vie, mais aussi des accidents sonores. Voilà, c'est un petit peu mon questionnement permanent.
Alors, j'ai cru comprendre que vous enseignez la communication interculturelle et aussi la médiation sensorielle. Alors, qu'est-ce que c'est la médiation sensorielle?
La médiation sensorielle, en fait, c'est tout ce qui... Enfin, en tout cas, dans mes cours, c'est tout ce qui ne passe pas par les yeux. C'est-à-dire, c'est une forme d'accessibilité où parfois l'olfactif et surtout pour moi, bien sûr, ce qui me passionne, c'est l'auditif, va amener une compréhension, une prise de contact avec un objet artistique ou autre, hein, ça peut être tout questionnement autour de ça, permet d'amener un angle de vue qui est différent. Par exemple, moi, dans le son, on parle souvent de stéréo. J'adore la notion de stéréo vertical. Un jour, j'ai entendu qu'il existait dans des musées des douches sonores. Et le principe que le son vienne d'en haut pour aller jusqu'en bas peut être intéressant et perturber un petit peu l'écoute pour en tout cas créer du questionnement. Et tout ce qui est la médiation sensorielle, c'est passer par des parfums, par des dispositifs qui permettent d'amener une autre vision d'une œuvre d'art et faciliter une compréhension par des publics différents.
D'accord. Alors, j'ai cru comprendre aussi que vous aviez fondé une agence très spéciale, une agence d'audio branding. Alors, pouvez-vous expliquer aux auditeurs en quoi ça consiste, l'audio branding?
Alors, l'audio branding, forcément, il y a audio, donc c'est sonore. Hein. Je dis bien sonore parce que dans l'audio, on pense souvent à la musique, mais il y a aussi les verbes et la manière de prononcer les mots, enfin, tout ce qui est verbal. Et l'audio branding, branding, c'est l'identité de marque. Donc, dans le domaine de la communication, une marque a besoin d'avoir un logo classique, mais moi je travaille que sur des logos sonores, donc essayer d'exprimer les valeurs d'une marque, qu'elles soient philosophiques, humaines, sociétales, marketing, essayer de leur donner une couleur musicale et verbale par des approches d'écriture.
Donc vous avez une palette très large à laquelle on doit rajouter votre activité de chansons, donc de poésie. Vous avez écrit beaucoup de chansons?
Oui, beaucoup, dont beaucoup ne sont pas sortis d'ailleurs, mais j'en ai beaucoup dans les tiroirs, ça c'est sûr. Oui, j'en écris tout le temps.
D'accord. Et quand vous écrivez, le premier jet est plutôt poème ou plutôt chanson ou c'est un mixte?
Je pense que je suis plutôt sensible à la phonétique. Donc souvent, ça part d'une phrase, d'un mot que j'entends mal. Souvent, c'est une erreur de diction. Et mes étudiants me régalent souvent avec ça, mais mes enfants aussi. Donc un accident de langage, le fait de décortiquer des syllabes et de trouver un autre sens à quelques mots qu'on mélange. Donc c'est plutôt d'abord un concept comme ça. Après, ça part... d'une histoire du sens du message que je veux faire passer, en tout cas de l'histoire que je veux raconter, mais ça passe beaucoup par la phonétique. Et après, bien sûr, je passe par la rime, oui. J'écris toujours en rime. J'ai eu des exercices avec des spécialistes de slam et j'ai compris que je pouvais peut-être changer mon fusil d'épaule et arrêter de chercher de la rime et chercher aussi d'autres modes d'écriture. Et je suis en train de travailler là-dessus en ce moment.
Donc, vous avez de multiples activités, vous êtes très inventif, très créatif, et vous avez, on peut dire, la paternité d'un concept que vous avez intitulé l'aura littérature. Alors, qu'est-ce que c'est cette aura littérature?
Ben, en fait, c'est que quand je travaillais sur une pièce de théâtre de bail collectif, c'était une Oncle Vania mis en scène par Julien Sabatier Ancora. Il voulait mettre une pièce audio en intro, une pièce Arte Radio, je ne sais plus ce que c'était. Et je leur ai dit, écoutez, ça travaillait, c'était Vania, donc c'est la pièce. Le propos, c'est un des membres de la famille décide de vendre de manière unilatérale le domaine familial et ça cristallise des histoires de famille. Et donc, je me suis rendu compte, en lisant bien sûr la pièce, qu'il y avait beaucoup d'attachement à des lieux. Et c'est ce que j'ai appelé les lieux-dits dans mon premier travail. Et j'ai suggéré aux metteurs en scène et aux comédiens de les interviewer sur des questionnements d'attachement à une maison d'enfance. Et quand ils m'ont restitué, quand ils ont répondu à mes questions, j'ai été assez, rien que d'en parler, j'ai déjà les poils, j'ai été touché par les souvenirs qui étaient à la fois très individuels et finalement universels. Tout ce qu'ils me racontaient me parlait, il y avait un bruit, des références olfactives souvent. Donc après j'ai touché, on est allé voir le public et on a posé les mêmes questions. J'ai eu la queue de 7h du soir à 11h du soir avec des publics dont l'émotion était palpable. Ils faisaient la queue dans un escalier, ils attendaient leur tour pour raconter des souvenirs, des trésors cachés dans leurs histoires personnelles. Et voilà, l'aura littérature, c'est tous ces livres qui ne sont jamais parus. Un mélange d'oralité, bien sûr, la voix, parce que un témoignage d'un personnage qui raconte sa propre histoire avec sa voix, toute l'émotion passe par le timbre qu'il va utiliser. Voilà, on ressent beaucoup de choses. Et j'ai fait ce mix qui est avec la littérature, dont Dick Hanegaard un jour m'a dit « Mais tu te trompes, c'est l'oraliture. » C'est un petit peu différent. L'oraliture, c'est la transmission. Si on transmet de père en fils, sous l'arbre à palabre, tout ça. L'oralittérature, c'est pour moi tous ces livres qui paraîtront jamais et dont je me fais le fort d'essayer de récolter le maximum de témoignages pour essayer d'en faire des histoires intéressantes à écouter.
Alors, est-ce qu'on peut comparer la littérature orale, je pense par exemple aux contes, avec l'aura littérature?
Absolument. D'ailleurs, je pense pas avoir conçu tout ça de manière consciente. C'est-à-dire, ça m'est tombé un petit peu sur le coin des oreilles au fur et à mesure de mes expériences. Et un jour, le Marathon des mots m'avait sollicité. Enfin, j'avais proposé des sujets et j'avais des histoires, des nouvelles. Je voulais qu'ils me programment, on va dire. Et puis ils m'ont dit non, mais j'avais envoyé une chanson, une comptine pour enfants. Et c'était une note d'amour. C'était l'histoire était mignonne. C'était une note qui tombait amoureuse d'un mot, mais le mot dormait. Donc petit à petit, elle appelle ses copines notes, puis ça devient des gammes. Elles font beaucoup de bruit, puis elle réveille le mot qui lui appelle ses copains mots, ça devient des phrases et comme ça naissait une chanson. Et il me dit, ça nous intéresse. C'était l'année, je ne sais plus, il travaillait sur l'Océanie. Et donc, j'ai collaboré avec une conteuse et on a travaillé. Elle connaissait tous les contes du monde entier. On a à partir de ma comptine, on a traversé tous les contes qu'elle connaissait pour essayer d'étoffer cette histoire. Et c'est assez proche, bien sûr. Ouais.
D'accord. Alors, ce livre, Les mots enfouis, il y a quelque chose à voir avec ce concept d'oralittérature. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous est venue l'idée, quel a été l'élément déclencheur pour vous lancer dans ces aventures?
Ah, c'est une rencontre en fait, c'est ça qui est génial. C'est vrai qu'on est trois, on cite les trois auteurs, mais j'ai rencontré une ethnologue un jour qui m'a confié son matériau sonore. C'était justement la première représentation de Vania avec Bail Collectif. J'avais installé, à partir du collectage audio de tous les témoins du public, j'avais monté une installation avec des vieux téléphones, on pouvait écouter ces histoires qui se racontaient comme ça. Je faisais des montages un petit peu sur des thématiques, donc assez dynamiques. Et puis tout d'un coup, une femme vient me voir, elle me dit « C'est vous qui avez fait ça ?» Et ouais, elle se présente, c'était Armelle Faure, une ethnologue, qui avait travaillé justement sur des déplacements de population de gens dont les villages avaient été engloutis entre Cantal, Limousin et autour de la Dordogne. Et elle me dit « Écoutez, j'ai 30 heures, enfin 100 heures même, elle avait d'archives orales, je voudrais bien vous les confier parce qu'on voudrait travailler sur des projets artistiques autour de ça. » La problématique était simple, c'est qu'elle avait 100 témoins, chaque témoin avait à peu près 1 à 2 heures de témoignage, c'était dans les archives départementales, donc des gens l'écoutaient bien sûr, des gens de la famille, des chercheurs, etc., mais personne n'avait une approche simplifiée, artistique de ce type de sujet. Et donc elle me les a confiés et j'ai commencé à travailler là-dessus.
Et alors je crois me souvenir lors de la lecture qu'avec cette personne il y avait une autre personne dont la fonction, dont le métier est psychogéographe.
Absolument.
Alors, qu'est-ce qu'un psychogéographe?
C'est des rencontres encore que j'ai faites grâce à ce projet. En fait, la première artiste qui avait été sollicitée, c'était une scénogéographe. Donc, elle avait son principe, c'était de marcher et d'aller à la rencontre de témoins, etc., et d'histoires qu'on lui suggérait ou des thèmes qu'elle choisissait. Et donc, je la rencontre, on échange, je vais voir son expo. Et quand j'ai écouté les premiers mots et croisé les premiers témoins de ces villages engloutis pour le lac de Bord-les-Orgues, j'ai eu un petit déclic. C'est-à-dire, j'ai senti qu'il y avait quelque chose à la fois autour de la notion d'œuvre utile, c'est-à-dire de rendre vie à des propos qui risquaient de disparaître et d'être enfouis définitivement. Et puis j'ai rencontré après une psychogéographe, donc elle qui crée, donc c'est toute une gamme. Alors je connais pas très bien le système, c'est très scientifique, hein, mais ce qui est intéressant dans cette recherche scientifique, c'est qu'il crée des cartes d'émotions sur des territoires, hein, c'est-à-dire ils convoquent des gens, ils travaillent à partir d'histoires d'ethnologues, etc., et ils les font réagir à un territoire, quel qu'il soit, ça peut être urbain, ça peut être en pleine campagne. Et à partir de là, il crée des cartes d'émotion et on ressent des choses en fonction de la géographie, des paysages. Donc c'est super intéressant.
Ce terme, j'allais vous faire rebondir, mais vous l'avez fait directement sur cette notion de carte d'émotion qui est très, très jolie, très, très poétique. Alors ce livre, il a une belle couverture. C'est un exercice peut-être un petit peu difficile. Est-ce que vous pourriez décrire aux auditeurs cette couverture?
Ah ben oui, en plus c'est un dessin de Pascal de Ressayguier avec qui je collabore depuis le début de ma société, c'est-à-dire elle avait fait le logo de Volume Original, mon agence. En fait, en lisant mes textes, et notamment le texte « Les mots enfouis », qui était un poème en fait, que j'avais dit lors d'une première expo, elle a créé une sorte de maison avec des jambes et qui ont une forme de racine. Si on regarde bien la maison, il y a une petite fenêtre ouverte qui est un petit peu à la forme à l'endroit du cœur, si c'était un personnage. Et en plus, au-dessus, il y a une sorte de halo fantomatique, un ectoplasme, une forme de personnage. Donc c'est un petit peu, il y a les racines un petit peu tout en bas, et puis ensuite des personnages au-dessus un personnage au-dessus du toit de la maison qui raconte justement bien l'importance de ce passé, de ce présent et de cet avenir et de toutes les âmes qui restent dans une maison. J'aime bien d'ailleurs, en découvrant le territoire de Bord-les-Orgues, la plupart des maisons ont un nom, mais c'est pas un nom de lieu dit ou de tout ça. Ce sont des noms de personnages qui sont restés. Parfois 200, 300 ans après, on dit toujours le nom de la personne qui avait habité là il y a 100 ans ou 200 ans.
Voilà. Et cette couverture a un fond bleuté, effectivement, qui symbolise sans doute l'eau.
Alors, bien sûr, autour de l'eau, puisque ça parlait de ces villages engloutis, et toute la gamme chromatique, excepté sur un clip, je crois qu'on entend, si on entend la chanson, je le dirai à ce moment-là, mais tout le thème, y compris des vidéoprojections sur le spectacle, parce que ce n'est pas qu'un livre, c'est aussi un spectacle vivant, est autour, bien sûr, de l'eau, qui est un thème que j'aime beaucoup aborder, qui est transversal, parce que l'eau sépare les gens, parfois elle les rapproche et parfois elle les engloutit. Voilà. Donc l'eau est un élément qui en plus va nous manquer petit à petit, donc qu'il faut soigner.
Alors je voudrais préciser aux auditeurs que ce livre est un livre particulier dans sa forme. C'est un bel objet et c'est un livre qui rassemble en plus cinq musiques.
Hein, oui.
Cinq musiques qui sont accessibles via des QR codes, donc c'est très agréable de pouvoir les écouter au fur et à mesure de la lecture. Alors comment on pourrait qualifier un livre de ce type-là avec la musique et aussi dans la disposition, dans l'agencement des pages et des titres. Là, vous avez fait un joli travail.
Oui, il y a eu beaucoup de travail. C'était une collaboration aussi avec l'éditeur, mais Pascal de Ressegui a vraiment donné son œil graphique très important. L'idée, c'est qu'au départ, on était très ennuyés parce que je me rends compte que dans les voitures aujourd'hui, on n'a même plus de lecteur CD. Donc, on trouvait que sortir un CD, ce n'était pas actuel. Donc, le principe de QR code, finalement, c'est une accessibilité universelle puisque tout le monde, enfin, beaucoup de gens, la plupart des gens écoutent la musique maintenant avec leur smartphone. Donc le QR code était une solution assez avantageuse. Moi, je le présente comme un livre graphique et musical. C'est comme ça que je dis systématiquement, parce qu'il y a à la fois effectivement des dessins qui sont en plus des tableaux, c'est-à-dire Pascal a créé, on a fait une présentation à La Rochelle chez Gibert juste avant l'été et elle avait sorti ses tableaux. On a des œuvres uniques qu'elle a créées, donc elle dessine et elle fait des tirages numérotés. Et puis au fil de l'eau, effectivement au fil de la lecture, on peut soit attendre la fin du livre et écouter les cinq chansons quand on a fini de lire, ou la plupart des gens l'écoutent au fur et à mesure puisque chaque chanson arrive à un moment clé de l'histoire.
Alors, je voudrais à nouveau préciser aux auditeurs que dans ce livre, il y a un récit. Et ce récit est agrémenté, accompagné de poèmes, de chansons, ce qui lui donne donc un caractère très, très particulier, très, très spécial, avec une caractéristique, c'est que le texte est écrit par l'auteur à la troisième personne, en parlant d'un tiers, tandis que toutes les chansons et tous les poèmes, c'est la première personne qui est employée. Alors, est-ce que c'était volontaire ?
Ça a été un changement de posture, on va dire. Au départ, tout était à la première personne, et puis une copine, comme c'était mon premier livre, une copine autrice m'a dit, tu devrais, pour te protéger et te libérer peut-être, pour terminer, parce que j'arrivais pas à terminer l'écriture, alors qu'en spectacle vivant, le jeu fonctionnait très bien, je trouvais. Elle m'a conseillé de prendre du recul et de donner justement de lancer ce Félix, nouveau personnage au milieu de l'histoire. Donc ça s'est fait après, et donc, mais par contre, les chansons fonctionnaient vraiment avec le jeu. Et le propos, par contre, à l'arrivée, enfin, je retombais sur mes pattes d'une certaine manière en me disant que justement, puisque le propos, c'est de dire que des histoires individuelles sont par essence universelles, l'universalité, en fait, elle est dans chacun d'entre nous. C'est ça qui est très beau, finalement. Et c'est une découverte que j'ai faite tardivement au fur et à mesure de mon cheminement sur cette histoire.
Alors maintenant, je vous propose que nous allions voir ce qu'il y a vraiment derrière les mots enfouis. Et je vous propose en premier lieu une réponse musicale.
Le présent construit l'avenir et repose sur le passé.
J'ai retrouvé les mots enfouis sous ces vieilles pierres englouties. Ces mots que je n'osais pas dire, rien d'autre que vos souvenirs. Des histoires si personnelles, mais tellement universelles. Universelles et ceux qui ont coulé ici des jours heureux. des jours heureux. J'ai retrouvé les mots enfuis, hier rivière, lac, aujourd'hui. Elle était belle votre vallée, à bord les orgues ont chanté. Un pays dépaysé, les mots sous le lac bien cachés. Souvenir en pointillé, je ne peux l'oublier, votre vallée. Je l'ai avalée, elle coule dans mes veines, votre vallée. Votre vallée. Témoin de l'histoire, t'es plus qu'une mémoire.
Parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Nous sommes toujours en compagnie de Paul Monnier pour son ouvrage « Les mots enfouis ». Les mots enfouis, des histoires si personnelles, mais tellement universelles. Elles coulent dans mes veines, votre vallée, témoin de l'histoire, t'es plus qu'une mémoire. C'est finalement une histoire un peu parallèle entre celle de Félix et des habitants de cette vallée de la Dordogne. Qu'est-ce qui est arrivé en premier ? C'est l'histoire de Félix ou c'est l'histoire des habitants de la Dordogne ?
C'est ce qui est incroyable, c'est que c'est l'histoire d'un des habitants de la Dordogne, enfin toutes ces histoires additionnées, parler d'un exil, d'une perte d'un repère, hein, et ce que j'ai appelé après une sorte de membre fantôme, c'est-à-dire, et puis tout d'un coup il y a un des personnages qui dit, on a un doute, on ne s'est pas rendu compte de quelque chose, parce que pour lui c'est une catharsis, il est interviewé par cet ethnologue qui lui pose des questions pour raconter son village avant qu'il ne soit englouti, et il explique tout d'un coup qu'il s'est... Ils ne s'étaient pas rendus compte, mais leurs enfants et leurs petits-enfants, ils leur ont transmis quelque chose qui était d'un poids démesuré. Ils s'en rendent compte, ils le disent, et quand j'ai entendu ça, moi, ça a réveillé une histoire très personnelle, pour le coup, mais qui m'a fait me fondre en larmes. C'est-à-dire, j'ai été choqué sur le moment, en entendant, parce que vous imaginez 30 heures d'archives orales, pour les traiter, pour les organiser, j'ai dû les écouter 5 fois plus de temps, à peu près. Donc, j'avais l'impression que ces personnages devenaient des membres de ma propre famille. Mais par contre, quand cette phrase est sortie, j'ai sorti, moi, justement, cette histoire très personnelle que vous avez dite en intro sur mon histoire pied noir, que j'ai complètement enfouie. Et j'ai compris à ce moment-là que cette transmission qui ne se faisait pas ou qui ne se faisait que de manière partielle, ça devenait pour les descendants une sorte de membre fantôme. J'ai vraiment fait ce parallèle avec le membre fantôme parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais, enfin qu'on peut avoir connu, mais qu'on a en soi, mais qu'on n'a plus, et dont on fait qu'on à la fois qu'on idéalise, sur lequel on fantasme complètement, même si on ne l'a jamais connu, si on ne l'a jamais vu. Et donc cette histoire devient incroyable.
Alors ces deux histoires parallèles, si on peut dire. Alors du côté de Félix, on est dans une nostalgie de l'Algérie. Et vous précisez dans le texte que on n'est pas vraiment dans le souvenir, mais on est dans une espèce de mémoire du pays fantasmé.
Oui.
De la même manière, pour les habitants de la vallée de la Dordogne, le fait de ne plus être dans la vallée, dans leur maison, il y a quelque chose de l'ordre du fantasme, du rêve, de quelque chose qui maintenant ne sera plus jamais possible.
Ouais, il y a à la fois une sorte de traumatisme et puis aussi une obligation. Alors, ce que j'ai essayé, j'aime bien parfois des retours de surtout de lecture, c'est-à-dire quand les gens viennent voir le spectacle ou quoi, ils me disent que j'ai réussi à mélanger à la fois la douleur de la vie parfois et en même temps ramener aussi cette légèreté. En fait, ce que j'aime beaucoup dans toutes ces histoires, c'est qu'il y a d'abord, bien sûr, une perte, donc quelque chose qui disparaît et à tout jamais. Et le fait que ce soit à tout jamais, ça permet aussi de se réinventer. Donc, il y a aussi, ça déclenche une obligation vitale de passer à une page blanche. Donc, de se réinventer, de se transformer. Donc, à la fois, c'est tout est justement. Bon, c'est en même temps, c'est la complexité de la vie. Hein, je crois, il y a toujours du blanc et du noir. Et puis, en fait, la vie est une succession de creux et de bosses. Et c'est un peu ça le sens de la vie, peut-être. Ouais.
Et dans les deux cas, vous insistez sur le fait que. Il y a une notion d'arrachement,
ouais.
Et que cette notion d'arrachement est souvent liée au souvenir d'un lieu d'enfance, dans les deux cas.
Ouais. Je suis persuadé, moi, par exemple, le premier cours que je fais à mes étudiants, je leur fais d'abord écouter un bruit, et je leur dis, je ne dis pas ce que c'est, mais dites-moi ce que vous entendez. Et sur une classe de 30 étudiants, je vais avoir entre 7 et 12 occurrences, c'est le record, différentes, sur un même bruit. Un simple paysage sonore, hein. C'est, je ne dirai pas ce que c'est, parce que sinon mes futurs étudiants vont savoir, j'utilise toujours la même piste. Mais tout ça pour dire que, en fait, et ensuite je les fais réfléchir, et je leur donne un jour ou deux pour me donner une réponse, à ce que j'appelle un son doudou. Les psychologues ont une approche sur les lieux doudou qui est très intéressante. C'est un lieu qui vous rassure, qui va vous ramener dans un processus émotionnel qui vous empêche d'être stressé, etc. Donc on a tous ça, et souvent c'est un lieu d'enfance, c'est une maison des grands-parents, c'est une maison de secondaire, des lieux de vacances, et donc j'aime bien les questionner sur un son ou un parfum doudou, et tous les ans je note scrupuleusement tout ce que mes étudiants me répondent, et j'ai des listes de plus en plus intéressantes.
Et vous donnez sur ce sujet un exemple dans votre ouvrage, c'est la description du square. Et c'est le poème « Il y avait un square ». Vous pouvez nous l'expliciter un petit peu ?
Eh ben, en fait, alors en plus, ça c'est une jolie collab avec Marc et Steve. Donc c'est le seul texte, excepté celui de Victor Hugo. Il y a aussi Exil de Victor Hugo dedans qu'on a convoqué parce qu'il écrit quand même bien cet homme. Marc, en fait, un jour Jean-Pierre Madère, donc on a beaucoup collaboré sur le projet. J'avais mes textes. Il a entendu la première fois où je lui ai dit les mots enfouis. C'était un poème que j'avais dit au public, les témoins notamment qui étaient là dans une chapelle parce qu'il y avait un spectacle, une expo que j'avais mise en son justement. Et j'avais dit ce poème en termes d'inauguration. Et moi j'avais revu tous ces témoins, etc., qui venaient me voir. Je les reconnaissais à leur voix, c'est-à-dire, par exemple, dans l'intro, là, on a entendu Jeanine Courteau qui dit la devise du village de Bord-les-Orgues avant qu'ils soient engloutis, enfin de Port-Dieu. Et donc, j'en parle à Jean-Pierre, il me disait, mais ce serait bien que tu invites peut-être un autre parolier pour confronter vos histoires. Et la première réaction qu'a eu Marc et Steve, donc grand parolier, hein, super connu, qui écrit beaucoup, il me dit, il a eu cette idée de ramener ça à un square, en fait, où tout se passe autour d'une place publique où les gens se retrouvent. C'est un peu le symbole aussi de l'arbre à palabres, où les gens se réunissent et se racontent les histoires du passé et du présent.
Vous faites aussi une allusion à ce qui s'est passé en Espagne après la guerre civile, par rapport à la mémoire, et également par rapport à cette nostalgie du pays pour les immigrés en France de deuxième ou troisième génération qui, sans avoir connu le pays, y ont finalement un attachement sans trop savoir pourquoi et sans même peut-être des fois y être allé.
Mais j'ai même des anecdotes, je suis en train de questionner des gens, parce qu'à force de parler du projet, je découvre des gens qui ont des histoires à raconter passionnantes. Si on a le temps, je vous en raconterai une juste après, autour d'une cigogne, c'est incroyable. Mais en tout cas, en me questionnant sur cette retirada, sur cette question des Espagnols, et en échangeant avec un metteur en scène sur une pièce de théâtre sur laquelle je travaillais, il me dit, moi je suis fils d'Espagnol, et en fait, quand j'étais enfant, on m'a interdit d'apprendre l'espagnol, en fait. C'était parce que, ses grands-parents avaient interdit à ses parents, en tout cas, d'apprendre l'espagnol. Et il en était assez troublé. Il me racontait justement que les grands-parents avaient une raison. C'était de dire qu'il fallait bien s'intégrer, il fallait devenir plus français que tous les Français parce qu'il y avait cette histoire politique qui était délicate et avec une différence majeure par rapport à la guerre d'Algérie en tout cas, qui était c'était une guerre fratricide. Donc voilà. Mais après, j'ai des anecdotes d'une personne qui est... moi-même, la première fois que je suis allé au Maroc, par exemple, l'odeur, la couleur du ciel, alors je n'étais jamais en Algérie, allé en Algérie. J'ai eu l'impression d'être chez moi, d'avoir quelque chose qui me parlait, qui me touchait au plus profond de moi. Et c'est pour ça que j'aimais enseigner la communication sensorielle, justement, parce que au contraire du visuel, le visuel est très fort, bien sûr, mais on est matraqué de beaucoup de messages, on voit beaucoup d'infos. On voit, ben, tout ce qui est olfactif et auditif nous transperce, c'est-à-dire ça, on touche, on rentre immédiatement dans l'intimité des gens. Et moi, une des premières leçons aussi que je donne à mes étudiants, c'est si vous touchez à l'intime, vous touchez au sublime. On est immédiatement dans une dimension qui est inéluctable, indéniable, qui est juste.
Et cette perception des choses qui rejoint des sensations peut-être oubliées, pas totalement perdues de l'enfance, vous dites dans votre livre aussi qu'on peut comparer ça au souvenir de tout enfant par rapport à sa situation dans le ventre maternel.
Ah ben oui, d'ailleurs la première notion de rythme dans la vie, le tempo, il naît par le battement de cœur de sa maman. Hein. C'est des scientifiques qui l'ont dit, hein. c'est pas parce que je suis passionné de musique, mais voilà.
Et alors donc, on chemine dans cette histoire et au fur et à mesure que l'histoire avance, Félix prend conscience d'un certain nombre de choses. Et ces choses-là, il va être en position finalement de prendre du recul par rapport à ce qu'il a vécu jusqu'à présent. Et il va prendre un certain nombre de décisions, de dire « bon, maintenant, j'ai compris, qu'est-ce que je fais ?»
Très juste, très juste, très bonne lecture, Philippe, c'est vrai. En fait, la première chose qui se dit, c'est justement stopper cette nostalgie, c'est-à-dire avoir cette douleur, ce poids qu'il a jamais accepté, parce qu'il pour s'être toujours senti du mauvais côté de l'histoire, finalement, par rapport à la colonisation, qui est indéniablement quelque chose, enfin une erreur historique. Donc c'était difficile pour lui de vivre avec ça. Et puis par ailleurs, par contre, tout d'un coup, de se dire, je remets ce pays-là, ce territoire, à sa juste place. Par contre, quand il va faire ça, il va se rendre compte qu'il n'a pas tout remis en place dans sa vie. Donc, il va se questionner aussi sur des questions de croyance, de foi, etc. Il va poser d'autres questions qui vont... Ça l'a amené aussi à former une sorte d'exigence par rapport à son travail qui était de questionnement global, hein, général, à ce moment-là de sa vie.
Voilà. Alors, nous allons y revenir en détail sur ce cheminement particulièrement intéressant. Et nous allons aussi revenir peut-être de manière un petit peu plus profonde sur cette notion de souvenir non vécu. Et ces souvenirs non vécus, nous allons d'abord les écouter.
أشعر بالفرح أحس بالوحدة والحزن يملأني يواتني لا أعرف لماذا أبكي أنت أمسي وأنت غادي أنت معي ليلا ونهارا
Si je savais où tu es né dans ce pays, imaginez toutes ces histoires sur ces allées, prisonnier. Je suis emmêlé dans ce passé, si adulé, rêve éveillé, un incomplet. Si je pouvais t'oublier, tu n'es pas à moi, mais tu es en moi. J'ai mal, j'ai ri, ces rires et ces lieux non-dits. J'ai pas connu, j'ai jamais vu, j'ai entendu, j'ai jamais su. Et je t'attends comme un enfant qui ne te connaît pas. J'ai entendu, mais j'ai pas su, j'ai pas voulu voir l'inconnu. Wahed Slemsa, le bled et sa casbah. Tu n'es pas à moi, mais tu es en moi. J'ai mal, j'ai ri, j'ai le mal de ton pays.
Je me trouve, on se réveille, on a l'air d'aider, le cœur de course.
dans ce pays, imaginer nouvelles histoires sur ces allées, sans mêler, me réveiller en impensé d'une Méditerranée, l'au-delà, l'au-delà-bas, Méditerranée, mène-moi, tu n'es pas à moi, mais tu es.
Parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Nous sommes toujours avec Paul Monnier, parmi les mots enfouis et les souvenirs non vécus. Alors Paul, est-ce que vous pourriez nous... On parlait tout à l'heure de souvenirs, d'anecdotes. Est-ce que vous pourriez nous en offrir une?
Oui, déjà, pour cette chanson, j'avais besoin, moi, j'ai mal, j'ai ri, j'ai le mal de ton pays, j'avais besoin de témoigner de cette compréhension de ce pays qui n'est pas le mien, et je voulais le partager, justement, avec, que ce soit absolument traduit en arabe et en kabyle, puisque j'ai une copine comédienne avec qui je collabore souvent, qui est Mela Mamri, et donc j'ai demandé à Mela Mamri et Laetitia Hedo de me traduire ce texte, sauf qu'elles parlent pas très bien l'arabe, elles ont demandé à leur maman de traduire ça, et donc quand je les ai eues dans mon studio, elles écoutaient religieusement leur maman au téléphone avec leur dictaphone pour être sûre de bien prononcer et de ne pas se faire d'avoir de reproches. Et donc c'était très très touchant, très émouvant. Mais l'autre anecdote que je voulais raconter tout à l'heure, c'est que j'ai interviewé un jour quelqu'un qui est super intéressant et il me dit qu'il était ancien directeur de l'Institut français à Tanger. Et il était en Algérie dans les années 55, je crois, donc avant l'indépendance. Et il me dit, écoute-moi, il faut que je te raconte un truc qui m'est arrivé, qui est incroyable. Première nomination, enfin il arrive à Tanger, il commence à bosser au Maroc donc. Et il va chercher des artistes contemporains autour d'un lac, etc. Et quand il arrive pour rencontrer les artistes, il entend des cigognes caqueter. Je ne sais pas si c'est du caquettement, mais je ne sais pas quel est le nom du bruit des cigognes. Et là, il perd connaissance. Ses yeux se brouillent, ses oreilles se mettent à vibrer très bizarrement et il perd connaissance. Et il ne comprend pas, il se réveille dans un hôpital et tout. Et là, les médecins lui disent, mais on ne comprend pas ce qui vous est arrivé, vous n'avez strictement rien, on a tout vérifié, donc... Ce qu'il fait, le soir, il rentre chez lui, il appelle sa mère, et sa maman lui dit, écoute, c'est très bizarre, mais quand, entre 0 et 3 ans, on habitait autour d'un lac, je ne sais plus dans quelle région de l'Algérie, et il y avait des cigognes en permanence. Donc, ce qui est très bizarre, c'est qu'un son comme ça, issu de nulle part, qui va réveiller quelque chose qui est en vous, enfoui complètement, pour moi, c'est la plus belle traduction mécanique, sans transmission, sans oralité, sans... Voilà, c'est une belle histoire.
Alors, cette anecdote illustre finalement ce concept d'autres mémoires, celle des faits qu'on n'a pas connus et que vous qualifiez de sorte d'exil incrusté. C'est-à-dire, finalement, même si on n'a pas vécu quelque part, on peut avoir des souvenirs. Et, oui, et ces souvenirs passent par l'ascendance, passent par... des voix de haute voix peut-être.
Sûrement, c'est très, très... Moi, en fait, à force de me questionner, donc d'abord Vania, puis ces écoutes de témoignages de villages engloutis, un jour, ma maman me dit « Tu devrais participer à un concours de nouvelles du CDHA ». Donc, je ne savais même pas ce que c'était. C'était le Centre de documentation historique sur l'Algérie. Donc, je me renseigne, je parcours et j'écris justement. C'est là que j'ai écrit cette chanson « J'aime Algérie » qui terminait ma nouvelle. Et je suis allé voir des conférences. Donc, c'est des rencontres, justement, sur des thématiques avec des sociologues, des ethnologues, des psychologues aussi, puisqu'il y a beaucoup d'approches psychologiques sur ces notions-là. Et j'ai appris des tonnes de choses. C'est-à-dire, j'ai vu des conférenciers qui racontaient ce qu'ils appellent l'impensé, c'est-à-dire ce qu'on ne peut pas nommer parce qu'on ne l'a pas vécu, mais quand même, après, intellectuellement, on est tous capables d'inventer des histoires, de se projeter, de s'imaginer quelque part. Et je trouve que c'est très important de pouvoir le faire avec beaucoup de recul, en tout cas de maîtrise presque scientifique. En tout cas, il faut aborder ça avec une vision de chercheur, un petit peu d'une certaine manière, être rigoureux dans sa démarche, parce qu'aujourd'hui, on nous apprend à être plutôt binaire, hein, c'est bien ou c'est mal. Alors que la radicalité aujourd'hui, c'est un petit peu la nuance, finalement, c'est ce que dit Wajdi Mouawad, et je trouve que c'est très, très joli.
Un peu plus loin dans votre livre, vous faites référence à Saint Augustin. Alors d'abord, vous dites la mémoire n'est pas le souvenir. Bon, on vient d'en avoir des exemples. Et vous dites aussi que le fait de se rendre compte, de réaliser que l'on a des souvenirs et ou une espèce de réminiscence, c'est quelque chose de significatif. Et vous citez Saint Augustin en disant « il n'y a de signe que s'il y a un manque ». Donc finalement, ces réminiscences traduisent un manque, une nostalgie, un sentiment de perte peut-être.
Bien sûr, et puis tout passe par l'émotion, en fait, finalement. Je crois que moi, je travaille beaucoup de matières sonores différentes. Je me rends compte que plein de gens font des podcasts, par exemple, et moi, je serais incapable de faire un podcast tout simple. C'est-à-dire, j'ai besoin de transmettre quelque chose qui va bouger les gens, qui va les faire remuer. Et justement, cette notion de sentir quelque chose au fond de soi et de s'en rendre compte par un déclic, par un événement extérieur, c'est primordial, parce que ça veut dire aussi déjà qu'il faut être attentif, c'est-à-dire il faut rester attentif à ce qui nous entoure. Et plus on est attentif, moi personnellement, plus je suis à l'écoute. Je me souviens, par exemple, mes enfants me disaient souvent que je coupais la parole régulièrement parce que j'avais l'impression d'avoir compris ce qu'ils voulaient dire avant la fin de leur phrase. Et du coup, ça m'a marqué, parce que plus je suis un bon écouteur, meilleur je suis en création, je crois. Donc en fait, l'écoute est importante, mais ça veut dire s'écouter aussi soi-même. D'ailleurs, l'histoire de Félix, au bout d'un moment, c'est à force d'écouter les autres, il va s'autoriser à s'écouter lui-même. Et je trouve que cette image, elle est belle, parce qu'on a tendance à s'oublier, à se laisser en plus perturber par beaucoup d'agitation des réseaux sociaux, etc. Et il est important de garder la tête froide. D'ailleurs, pour terminer, moi, juste avant le marathon des mots, j'ai eu besoin d'aller faire une marche, de faire une randonnée, justement, qui était en plus, qui était une sorte de méditation avec un jeûne, etc. Et c'était, pour moi, ça a été primordial, parce que ça m'a obligé aussi, d'une part, à m'écouter, mais aussi à remettre un petit peu tout à la bonne place et arrêter de me laisser déjà, d'une part, embringuer dans des histoires qui n'étaient pas les miennes. Et d'autre part, de remettre mon histoire et mon avenir en phase un petit peu. Et je crois que la marche sert aussi à ça, à recréer du lien entre l'esprit et le corps.
Alors, on va y revenir tout de suite un petit peu en détail. Avant, j'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu de l'exil. Vous dites « l'exil empêche de faire le deuil ». Et quelque part, Félix, peut-être aussi les habitants de la vallée de la Dordogne, le fait de ne pas pouvoir revenir sur les lieux empêche de faire son deuil. Et on est même dans une situation, pour des gens comme Félix, de dire que même s'ils n'y ont jamais été, le fait de ne pas y retourner empêche de faire le deuil. Et pour les habitants de la Dordogne, dans le livre, on observe qu'à chaque fois qu'il y a une grande vidange du barrage, eh bien, tous ces habitants, ou maintenant les descendants, redescendent dans la vallée, momentanément asséchés.
Ouais, c'est impressionnant. En fait, c'est un témoin, un des papis. Il a une voix, j'adore. En écoutant ce que vous me dites, je me souviens de cette voix qui dit, en fait, pour tous ces gens qui ont perdu leur maison, qui a été engloutie, le fait de plus avoir, que la maison ait disparu, qu'ils ne puissent plus y retourner, c'est comme d'avoir perdu un membre de sa famille, mais de ne pas avoir le corps. C'est-à-dire, on peut pas faire le deuil, on peut pas. D'ailleurs, ils ont dû remonter les cimetières, les gens à l'intérieur. Mais donc, c'est cette notion-là. Et Ce qui est très touchant, c'est que d'ailleurs dans les années 50, EDF, qui était responsable de tous ces barrages hydroélectriques, ils ont commencé à raser les maisons avant d'engloutir parce qu'il y avait trop d'accidents de gens qui allaient plonger et chercher les maisons, les restes de ce qui arrivait. Mais j'ai une très belle anecdote là-dessus, c'est Micheline dont la voix, moi je suis tombé amoureux de sa voix, c'était une ancienne prof de français, je l'ai eue au téléphone avant les premières représentations et elle descend, donc la première vidange, donc le lac est englouti dans les années 50, première vidange 55 ans après, c'est énorme, hein, ça veut dire... Normalement, ils les font tous les 10 ans, là, tout allait bien. Donc, ils font une vidange 55 ans après. Donc, tous les gens, les anciens, sont revenus. Et là, elle retrouve les fondations de la maison de ses parents. Elle retrouve une porte qui menait à une cave. Elle arrive à ouvrir la porte, elle descend, elle retrouve le tonneau de vin qui était toujours là. Donc, elle ressort un petit peu émue. Et puis là, en sortant de là, elle voit un homme qui arrive vers elle. Elle lui dit, écoutez, je suis un peu perturbée, je ne me souviens plus. Vous savez où était la gare? Et le monsieur lui dit, ben, j'en reviens, je vais vous montrer. Et il l'accompagne en discutant, il lui dit, ben, moi j'ai pas trouvé, je cherchais la maison d'une petite fille qui habitait à côté de la gare, elle s'appelait Micheline. Et là, l'histoire, gros blanc dans le témoignage audio, la fille dit, mais Micheline, mais c'est moi. Et donc 55 ans après, ces gens se retrouvent, en en parlant, j'ai encore les poils, et bien sûr j'en ai fait une chanson d'amour, parce que je pouvais pas imaginer autre chose que cette histoire-là.
Oui, très, très joli et très émouvant, et c'est là peut-être que l'on sent toute la poésie qu'il y a dans ce livre. Tout à l'heure, vous avez parlé du cheminement par rapport, grâce à la randonnée, grâce au fait de marcher. Pouvez-vous nous expliquer très brièvement le goum ?
Ah oui. En fait, je cherchais à faire justement une sorte de retraite. J'étais très stressé avant le marathon des mots. On m'avait dit vous allez faire l'ouverture officielle, donc j'étais très fier, mais en même temps assez stressé. J'étais pas prêt pour le spectacle, et donc j'avais besoin de me faire une retraite. Et j'en parle, mais on me parlait que de choses avec du yoga, des trucs très chers, et moi j'avais besoin d'un truc de frugal. Et tout d'un coup, un copain, le voisin du commerce de ma femme, me dit « Écoute, moi j'ai fait les goums. » Alors je lui dis « Mais qu'est-ce que c'est ça, les goums ?» Et donc il m'explique ce que c'était les goumiers. C'est une retraite spirituelle, on va dire. Et il m'explique on est en djell là-bas, on part, c'était entre l'Écosse et les Cévennes. Et c'est 6 jours de marche à raison de 25 km par jour, donc c'est intense. Un bol de riz le matin, un bol de riz le soir, ça coûtait 90 euros. J'ai dit « C'est pour moi, je veux un truc radical comme ça. » Et ben, j'ai fait ma première randonnée de ma vie, j'en avais jamais fait, avec un sac de 15 kilos au lieu de, il fallait 10 maximum, et donc j'ai traversé l'Écosse et les Cévennes, c'était magnifique, on dormait à la Belle Étoile, et j'ai finalisé de me questionner, de travailler sur tous ces questionnements, et ça m'a remis aussi en place. D'ailleurs, j'avais deux hernies discales, et dès la première nuit, j'avais plus mal au dos, donc c'était incroyable.
C'est efficace.
Un signe.
Donc la randonnée, sorte de chemin spirituel qui est présenté pour Félix, mais qui sans doute a été le cas pour vous, c'est pouvoir se réécrire, comme vous dites, pour pouvoir aborder l'écriture de la page blanche, l'écriture de son avenir pour se réinventer. Donc c'était quelque chose d'un préalable à finalement faire son deuil, se réinventer et aller de l'avant.
Et ouais, maintenant Félix est très embarrassé parce que maintenant qu'il a posé tout ça et qu'il a remis toutes ces choses à leur place, et ben maintenant il faut qu'il se réinvente et qu'il se trouve lui-même. tout est à suivre, la prochaine étape est à construire.
Tout à fait. Alors il y a une très belle expression, puisque pendant cette randonnée, il y a des veillées, et à un moment donné, Félix prend conscience d'un certain nombre de choses, et vous parlez de brise verbale. Expliquez-nous un petit peu la brise verbale.
La brise verbale, en fait, c'est à la fois tous ces c'est pas des injonctions, c'est ce qu'on entend, ce qu'on écoute qui nous permet d'avancer et qu'on retient. Parce qu'en fait, l'image au départ, c'est un homme seul sur une plage qui entend plein de conversations autour de lui. En principe, on a tendance à essayer de capter un petit peu toutes les histoires. On est un peu curieux, voire voyeur, ou je sais pas comment on appellerait ça, mais entendeur. Et la brise verbale, c'est vraiment cette notion que On est chargé de plein d'histoires et puis en fait on en retient une partie qui vont devenir notre propre matière personnelle. Donc voilà, c'est un peu ça le... Mais là, par contre, j'adore la notion de vent et toutes ces histoires qui nous arrivent aux oreilles en fait, plus que... Et sur la peau aussi, hein, mais voilà, qui sont assez tactiles. En fait, ces mots peuvent être palpables. C'est... Moi, j'ai toujours rêvé, je sais que j'y arriverai jamais, hein, c'est une utopie, mais quand j'ai su que l'installation sonore c'était de l'art plastique, je rêve de faire un son qui devienne sculpté, qui soit palpable. Donc, je sais que j'arriverai pas, mais je reste utopique.
Alors, vous avez déjà partiellement répondu à la question, mais la question qu'on pouvait se poser, c'est dire après l'écriture de la page blanche quelque part, qu'est-ce qu'on peut écrire à la suite ?
Déjà, je crois que ça va m'amener à une forme d'honnêteté intellectuelle et de rigueur. C'est-à-dire, là, j'étais sur plein de nouvelles chansons et j'ai senti que j'étais pas dans la bonne direction. Des chansons pop, j'écris aussi avec le même type d'écriture, mais je pense que j'ai besoin de revenir à quelque chose de simple qui part des mots. Et voilà. Et les mots devraient suffire à créer leur propre mélodie. Donc, je suis en train d'essayer d'épurer un petit peu mon travail et je suis en train de préparer des projets toujours sur la mémoire quand même, parce que c'est pour moi important, et sur l'oral littérature, sur les voix, toujours. Et je pense que ça tournera autour de l'eau un peu plus précisément.
Merci beaucoup, Paul Monnier, pour cet ouvrage Les mots enfouis, qui, je le rappelle, sont parus aux éditions Cap de l'Étang. Je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez réagir à cette émission et qu'elle sera disponible sur toutes les plateformes numériques en podcast, et que toutes les semaines, Parole d'auteur est diffusée le mercredi à 10h, suivie d'une première rediffusion le vendredi à 19h et d'une seconde le samedi à 17h. Donc, lisez, procurez-vous le livre de Paul Monnier, vous y trouverez de la poésie et une démarche spirituelle très, très intéressante et qui mérite d'être examinée de près. Au revoir à tous.
Merci beaucoup.